Bonjour à tous. Donc, nous avons trois invités sur le plateau. Michel Zollet, sociologue, ethnographe, professeur et chercheuse à l'Institut d'urbanisme de Paris, qui prendra la parole en premier. Ensuite, Jean-François Mignat, secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme et rédacteur en chef de la revue, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, Hommes et Liberté. Et puis Jérôme Semla, réalisateur de films documentaires. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Michel.
Oui, merci. Je voudrais peut-être d'abord commencer par remercier le comité du festival qui m'a invité. J'ai découvert ce festival, j'ai découvert le pays et j'en suis très contente. Donc, merci beaucoup. Et autre chose aussi, c'est que je suis à la retraite, donc je travaille plus ou moins. Et ça, le fait de venir, ça m'a tout d'un coup remis un peu la pied à l'étrier. Et donc, merci. Et je vais commencer tout de suite et je veux m'excuser un peu, pas du ton, mais j'ai écrit un papier, je vais essayer de ne pas le lire, mais voilà, j'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux. Voilà. Donc je vais répéter ce que j'ai déjà dit ce matin à la conférence de presse, que bon, ben, pour être franche, je dirais tout d'abord que les termes utilisés dans les formules privées d'espace public et « la rue est à nous » m'ont vraiment titillée comme sociologue de l'urbain. Et spontanément, je me suis posé quelques questions. C'est quoi la rue est à nous? Est-ce un slogan, une revendication, un idéal, une réalité? Mais qui est ce nous? Est-ce nous tous? Qui sont ces privés? Et toujours est-il que j'ai eu envie de prendre au mot cette expression « la rue est à nous » dans ce qu'elle peut signifier de privatif, d'exclusif ou d'excluant, et de regarder la réalité des pratiques, des usages qu'elle peut couvrir aujourd'hui. De fait, à la réalité implacable des privatisations marchandes, économiques, sécuritaires des espaces publics, j'en rajouterai une autre, celle par les usages ordinaires, individuels et collectifs, qui pose elle aussi, à mon avis, la question de la fragilité, de la vulnérabilité de ces espaces qui sont aujourd'hui très sollicités, en tout cas dans les grandes villes, comme Paris, par exemple, dont je vais plutôt parler. Mais peut-être juste repréciser quelques termes et quelques éléments d'histoire très rapides. Peut-être que vous ne savez pas que la notion même d'espace public est devenue absolument banale aujourd'hui. Elle est récente. Elle date des années 80, donc elle a eu un grand succès. Et ce qui est d'autre part intéressant, c'est qu'elle a été saisie simultanément par l'urbanisme, les sciences sociales, les artistes et, je dirais, les sciences politiques. Donc, les sciences politiques, je ne vais pas en parler parce que je pense que ça peut créer une certaine confusion. Si vous voulez poser des questions après, je suis prête à répondre. Donc, ce terme d'espace public, en fait, c'est un terme englobant qui renvoie à ce qu'on appelle traditionnellement la voirie, les places, les jardins. Donc, pourquoi ce terme? Alors, le choix de ce terme, je pense, est une façon d'insister sur leur caractère public, au sens juridique du terme, c'est-à-dire en termes de sol et de gestion, mais surtout sur du public, sur la vie de ces espaces, sur leur rôle social. Je crois que l'idée qui est très présente et partagée par tous les protagonistes de l'époque et pendant tout ce temps-là, et de faire revivre la rue, donc je retrouve les termes un peu du débat, de la reconquérir, chacun avec des enjeux prioritaires différents. Pour les urbanistes, il s'agissait d'agir contre l'automobile, contre le fonctionnalisme, contre la fragmentation pour réunifier la ville. Donc c'était un enjeu d'équilibre urbain. Pour les artistes, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses dites et de faites, donc faire sortir l'art dans la rue, le démocratiser. Pour les sciences sociales, que je connais un petit peu mieux, donc il s'agissait de comprendre en fait s'il y avait une spécificité de cet espace social et de son fonctionnement qui a été analysé essentiellement en priorité à partir d'un principe qui est propre à nos sociétés, je crois, occidentales, qui est le principe d'accessibilité à tous, donc en termes de mobilité, et en quoi et dans les contradictions en fait que cette accessibilité à tous engendre par rapport à d'autres pratiques. C'était aussi comprendre, et le terme est très courant dans les sciences sociales, la civilité, qui est un mode de sociabilité propre à ces espaces, qui n'est pas fait de gens qui se connaissent, mais qui est fait d'anonymes, majoritairement, aux préoccupations diverses, aux relations faibles, à l'inattention qu'on a appelée à l'inattention polie. Pardon. Donc je crois qu'on peut retenir trois choses juste rapidement de toute cette... Tout ce moment-là, très fort, je m'excuse, mais je transpire. Très chaud. Doublement chaud, parce que je parle aussi, que je suis un petit peu... Donc je dirais qu'il y a trois éléments à retenir. C'est que il faut préserver l'existence même de ces espaces publics. Alors j'avais une citation de Paco, mais je crois que comme je n'ai pas tellement le temps, je ne vais pas la citer, mais... Paco dénonce un peu justement la privatisation des espaces publics que sont les centres commerciaux ou ce qu'on appelle les gated communities ou les center parks, enfin tous ces espaces clos, donc où il n'y a pas d'accessibilité et où il est très critique. Mais moi je pense que justement, comme je ne reparlerai pas du tout des centres commerciaux, je pense que les centres commerciaux, la majorité des Français, semble-t-il, c'est là qu'ils vont faire leurs courses ou d'autres choses. Et que donc il n'y a pas de raison, comme beaucoup le font d'intellectuels, de mépriser cette pratique-là des centres commerciaux. Et j'ai rapporté le livre pour que vous le montriez, parce que j'aime beaucoup montrer, faire un peu de prosélytisme sur les livres que j'aime. Et c'est le livre d'Annie Ernaux, que j'aimerais avoir écrit, mais non, ben, c'est elle, qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour ». Et ça parle de quoi ? Des centres commerciaux, et c'est superbe. Et ce que dit Annie Ernaux, entre autres, c'est que quelqu'un qui n'a jamais été pratiqué, a été dans les centres commerciaux, ne comprenne rien à la société française. Mais ce n'est pas des centres commerciaux que je vais parler. Donc, il y a donc la préservation des espaces publics ouverts et accueillants. Il y a l'attention à l'accès pour tous. Hein, donc, et là, je ne vais pas m'arrêter, mais je pourrais faire une liste de tous... de toutes les catégories de population où ça fait problème, finalement, malgré ce principe d'accessibilité à tous, d'entrer dans l'espace public. On a beaucoup parlé des handicapés, on parle de plus en plus des enfants, on parle de plus en plus des femmes, et ça, je pense que c'est aussi intéressant à suivre. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité, justement, à propos de cette question-là. Il y a eu un mouvement actuel qui s'appelle Stop Harcèlement de la rue, qui me paraît être très, très prometteur. Donc, les handicapés, les enfants, les SDF, les migrants, une catégorie de population ou une activité que je trouve très intéressante et qu'on interdit beaucoup en France, alors que c'est très courant et que c'est souvent un élément vraiment de dynamique urbaine, économique, mais aussi sociale, qui sont les vendeurs ambulants. Voilà des images. Est-ce qu'il y a des images ? Il n'y en a pas ? Bon, je ne vais pas commenter les images parce que sinon j'en aurai pour trop longtemps. Mais là, vous aurez cinq images. Après, si vous voulez poser des questions, je vous dirai ce que c'est. Et puis, en fait, les populations qui sont excentrées, périphériques, et qui ont, par leur enclavement, pas toujours accès à cette, par exemple, au centre-ville dont je vais surtout parler. Et le troisième point, c'est, alors, il y a l'existence, il y a l'attention à l'accès pour tous, et puis, il y a le partage de ces espaces centraux qui, dans les grandes métropoles, sont très, très sollicités. Donc le partage est stratégique pour la vie de ces villes. Alors on comprend bien que les espaces publics soient soumis à des sollicitations contradictoires et que l'enjeu soit le partage. Cependant, ces sollicitations peuvent sembler pour certains plus impératives et légitimes que celles des autres. Et j'en reviens ainsi à la formulation de « la rue est un lieu ». Si j'ai choisi de m'arrêter sur ce phénomène, c'est qu'il m'a paru très significatif d'une nouvelle tendance d'occuper les espaces publics aujourd'hui, qui peut donc les fragiliser et que ces pratiques, à mon avis, interrogent plus globalement la société dans son ensemble. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. De quoi s'agit-il ? Photo Il y en a 6. Il s'agit, donc ce dont je veux parler, c'est de l'affirmation de plus en plus nombreuse de nous, de groupes dans les espaces publics, qui disent donc plus ou moins explicitement « la rue est à nous ». Je pense à tous ces rassemblements que j'appelle culturaux, ludicaux, sportifs, ça fait un peu pompeux, mais je pense que c'est assez compréhensif, cible, dont le terrain de prédilection est l'espace public. Donc ce sont des occupations plus ou moins temporaires, plus ou moins répétées, dans des lieux souvent privilégiés à la mode. Ils prennent différentes formes, sont de différentes natures. Alors je vous donne des exemples. Il y a tout ce qui est repas collectif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, on pique-nique partout. Alors, à Paris, par exemple, c'est surtout au bord de l'eau. Alors, il y a la Seine, mais il y a aussi le canal Saint-Martin. Toutes les manifestations sportives, vous avez dû entendre parler des grandes soirées de rollers qui traversent tout Paris. Il y a des courses aussi, de toutes sortes. Y compris, d'ailleurs, je vais en parler plus tard, mais c'est vrai, vous allez rire, mais c'est vrai, ça existe, je l'ai vu, des courses de poussettes. Certains parlent d'ailleurs de, je ne sais pas si non, vous ne les voyez pas, on les verra plus tard. Certains parlent de grégarisme sportif. Enfin, il y a les regroupements musicaux, il y a les flash mobs, etc. Si vous avez d'autres dans la tête, vous pourriez me les donner. Juste un exemple. Il existe à Paris depuis 25 ans ce qu'on appelle un dîner blanc. Vous m'entendez ? Un dîner blanc, c'est-à-dire c'est un repas bon chic, bon genre, ce qui se fait par cooptation. Il faut être habillé en blanc, si possible très chic. Et ça se passe dans les quartiers chics, sur un pont. Et le créateur de ce dîner blanc disait « Nous avons le droit d'en profiter ». Ce sont les fonctionnaires qui habitent les beaux lieux. Alors nous, qui payons des impôts, nous avons aussi le droit d'en profiter. Ce que je voudrais, c'est partager avec vous ce qui reste pour moi des questions autour de ce qu'on peut appeler diversement privatisation, appropriation, territorialisation de ces espaces, et qui me paraissent sous cette forme un phénomène nouveau. J'en aborderai 4 points. D'abord, ce « nous ». C'est quoi ce « nous » ? Ces nous interrogent l'être ensemble dans une ville, le mode de sociabilité qu'ils impliquent. On peut noter que ces phénomènes d'appropriation se réclament le plus souvent de la convivialité. Comme si la convivialité était devenue dans notre société le nouveau mot d'ordre pour être heureux. Par exemple, ça a même été institutionnalisé sur la place de la République, où on a maintenant des agents de la convivialité citoyenne. Je sais pas si, je me demande si les termes ne sont pas contradictoires entre eux, mais peu importe. Donc on peut penser que le succès de cette expression renvoie sans doute à une quête plus ou moins consciente d'une communauté, d'un collectif, dans un univers très individualisé. Reste que ces communautés, ces regroupements, le plus souvent sur le mode fusionnel, sont souvent éphémères, ne construisent pas un collectif durable. Le lien se ferait un peu, à mon avis, sur le modèle du réseau Internet, avec les aléas, les fluctuations du réseau, et surtout dans le besoin impérieux d'une visibilité, d'où d'ailleurs l'intérêt de l'espace public. Donc l'espace public peut devenir un objet de consommation comme un autre, jouissance d'un bien à soi, au groupe, plutôt qu'un bien commun, dont la collectivité nous assure sa jouissance et qui suppose le respect de certaines règles qui rendent possible son occupation. Évidemment, je pense au bruit, à la propreté. Et si j'en parle, c'est que vraiment, de plus en plus à Paris, il y a d'énormes problèmes auxquels d'ailleurs se confronte la ville de Paris. Donc la ville, l'espace public, comme un objet commun de satisfaction et de plaisir, et non un espace où c'est un tiers, un idéal qui soude les uns et les autres, comme c'est le cas, par exemple, pour la manifestation politique. Donc, reste aussi que ce « nous », avec ce « nous », il y a un risque de monopolisation d'un espace pour soi, à l'exclusion d'autres. Le « nous » est exclusif, et là, j'aurai beaucoup de choses à vous raconter.
Michel, si vous... Michel, oui. Je vais devoir vous interrompre, je crois.
Non, il n'y a pas 15 minutes.
Si. Bon, je vous laisse quelques minutes. On est d'accord, la salle ? Vous êtes d'accord pour terminer les quatre points ?
Non, mais ça, c'est pas possible. C'est,
si, si. Comme ça, je vous annonce l'heure en même temps. Ça vous donne un tempo. Et voilà, il vous reste un petit moment. Et après, vous pourrez à nouveau prendre la parole.
Bon, alors, donc j'avais quatre points. Je vais vous les dire et je ne vais pas les développer. Donc, le deuxième point, c'est que c'est nous, à mon avis, ces pratiques de rassemblement relèvent de ce que j'ai appelé par ailleurs une nouvelle culture de la rue, à fondement festif, ludique, hédoniste. Je pense que ça relève d'une nouvelle culture tout court, nouvelles valeurs, nouvelles mœurs, nouvelles croyances, et où ces pratiques interrogent le statut du corps, le sentiment de soi. Il y a comme une redéfinition anthropologique de l'intime et de la pudeur, et donc j'en parlerai pas puisque j'ai pas le temps. Le troisième point, et ça paraissait un des plus intéressants, mais tant pis. Le troisième point,
ça revient.
La sponsorisation par ces événements sont très souvent sponsorisés par des agents privés. Les espaces publics deviennent à ce moment-là des espaces promotionnels qui se rajoutent bien sûr à la publicité. Et un des exemples que je voulais vous raconter, c'est effectivement la course de poussette, mais qui ne s'appelle pas la course de poussette, ce serait trop simple. Ça s'appelle le running de poussette pour Happy Family, qui a été organisé par Bougabou, San Marina, Famille, La Familiale, etc. Bon, je passe. J'avais un autre exemple sur la place de la République. Quatrième point, on peut s'interroger sur le rôle des pouvoirs publics et entre autres la mairie de Paris, qui c'est elle qui dans les années 80 commence à organiser les grands événements, fêtes de la musique, nuit blanche, etc. C'est comme si elle avait donné le feu vert finalement à certaines pratiques. Il y a le sponsoring, il y a les aménagements qu'elle fait et la question de la gestion et de la réglementation. Et je pense qu'il y a une dimension importante, c'est effectivement l'autorisation, par exemple, des terrasses de café qui deviennent les assises les plus courantes dans les villes qui sont payantes. Donc on a là, avec cette histoire d'autorisation de terrasses de café qui me paraît intéressante. Je voudrais quand même juste prendre deux minutes pour les conclusions. J'avais deux types de conclusions. Un, c'est sur ces phénomènes. Les espaces publics, lieux précieux de l'apprentissage de l'altérité, sont-ils altérés par ces pratiques ? Assiste-t-on à la mutation d'une métropole et de ses espaces publics en cours de récréation, surtout avec le tourisme ? De quelle société cette nouvelle scène publique serait-elle l'expression ? D'un capitalisme bien-pensant, moralisateur, avec l'éviction d'un certain type d'activité manuelle, salissante, etc. En poussant le trait avec Brossa, le cultureau ludico-sportif supprimerait-il ou évincerait-il le politique ? Je ne peux m'empêcher de m'interroger sur l'hypothèse d'une liaison possible entre l'époque Mitterrand et Lang et la politique du tout culturel et l'émergence et le succès de cette notion d'espace public avec en construction les citadins en public d'eux-mêmes d'une mise en scène généralisée. Deuxième type de conclusion. La rue n'est pas à nous, la rue est à nous, mais on pourrait peut-être le remplacer par la rue, c'est notre affaire. Et à ce moment-là, examiner tous les courants alternatifs, qu'est-ce qui se passe ? Il y a pas mal de choses qui se passent autour des jardins, autour des espaces verts. Il y a des choses qui se passent dans les concertations. Il y a des choses qui se passent autour des marches humaines, urbaines, qui sont une façon d'explorer la ville. Et puis, on pourrait peut-être penser à des nous subversifs. Voilà, merci.
Merci. Jean-François, je vous passe le micro.
Oui. Donc, bonjour, bonsoir. Je vais essayer d'être concis. C'est terrible, quand on commence à dire ça, c'est qu'on risque d'être long. Donc, juste quelques idées. Donc, je vais parler au nom de la Ligue des droits de l'homme. Ce n'est pas une entrée socio-anthropologique que j'ai hors de cette question-là. C'est plutôt une entrée à la fois politique qui renvoie à la question qui est la question des droits. Je voudrais peut-être, dans le fil de ce qui a été dit précédemment, parce que je crois qu'il y a des choses qui ont été dites... Et que je peux reprendre et développer très rapidement sur cet aspect-là, qui est celui de la dimension politique de l'aspect des droits. D'abord, déconstruire peut-être une représentation qu'on a ou une espèce de discours qu'on a de la question des espaces, qui serait que nous serions régis, en gros, nous vivrions dans deux sphères, déjà, qui voudrait dire qu'on soit capable d'aller d'une sphère dans une autre sans forcément trouver les portes, hein, qui serait d'un côté l'espace public et d'un autre côté l'espace privé. Hein, on entend beaucoup cette représentation qu'on peut avoir là de la haine, des rapports sociaux qu'on peut avoir, et pour dire qu'en fait, nous vivons plutôt dans trois espaces qui sont des espaces ouverts aux frontières mouvantes, qui sont d'un côté l'espace privé, qui est celui de la liberté individuelle ou la liberté collective, voire communautaire. En gros, à la maison, on peut ce qu'on veut, pour autant qu'on ne transgresse pas des interdits majeurs, mais une fois la porte de l'appartement fermée ou de la maison, ça nous appartient d'une certaine façon, faut relativiser. À l'autre bout de ce continuum des espaces, il y a l'espace de l'État avec ses appareils, avec ses règles du jeu assez normées, l'école, il fut un temps l'armée, les rapports qu'on peut avoir dans l'administration, qui donnent des règles du jeu, qui sont les règles du jeu républicaines, on va dire, de l'État. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est neutre. Ces espaces-là ne doivent pas être marqués par un certain nombre de choses qui renvoient à la dimension communautaire, parce que la République, c'est l'affaire de tout le monde. Et puis, il y a l'espace public au milieu, qui historiquement est un espace à négocier, qui est un espace de démocratie, qui doit, de mon point de vue, du point de vue aussi de l'organisation que je représente, être cet espace qui est un espace qui est de l'exercice des droits de façon contractuelle à négocier entre les personnes. Voilà. La rue, on y fait ce qu'on veut. Dans l'espace public, je dis la rue, mais c'est vrai qu'il faudrait aller tirer le fil plus loin. Dans la rue, tout est a priori autorisé, sauf ce qui est interdit. Il n'y a pas une réglementation a priori. Mais on fait ce qu'on veut, sauf si l'ordre public peut être transgressé, peut être atteint. C'est la liberté qui prime sur la restriction. Voilà, c'est cet espace-là qui est important et qui est une certaine manière de penser l'espace public. Et je voudrais par rapport déjà donc à cette représentation des espaces, se rappelle un peu de la manière dont on peut positionner les espaces en termes politiques et des rapports sociaux, attirer l'attention sur deux dangers aujourd'hui, sur deux risques qu'on vit, que nous vivons, que nous identifions, puis qu'en tant qu'organisation, nous vivons au quotidien et par rapport auxquels nous intervenons. D'une part, cet espace public qui devrait être un espace ouvert, négocié, qui est l'objet d'une marchandisation, ça a déjà été évoqué. Je ne vais pas retirer le fil de ce qui a été dit, que je partage dans la première intervention, mais qui, au niveau des droits, aujourd'hui commence à poser des problèmes singuliers. J'illustre. Dans un certain nombre de villes de France, de plus en plus par exemple, la liberté de manifestation et d'expression des idées politiques va être limitée par les intérêts qui sont les intérêts commerciaux. À Toulouse, à Nantes, dans d'autres villes de France, on commence par exemple à tranquillement faire circuler, défiler les manifestations en dehors du centre-ville parce que ça empêche les commerçants de faire de bonnes journées qui sont des journées commerciales. Quand on négocie, moi j'ai pu le faire avec un préfet ou avec un maire, on commence à entendre ce genre de choses-là qui interrogent quand même sacrément sur aujourd'hui la façon dont les politiques et plus globalement la société pensent à la question qui est la question de l'espace, qui est l'espace public. Il y aurait aujourd'hui, et on tire on la sonnette à l'arme de ce point de vue-là, de plus en plus une espèce comme ça là, d'évacuation de l'espace public au bénéfice d'une logique qui est une logique plutôt, par exemple, commerciale, et au détriment de la logique politique. Voilà. Premier aspect qui pose problème. Deuxième aspect, qui est la question de l'espace public qui devient l'objet de la mise en place d'un ordre, plus que jamais. Alors, c'est quelque chose, hélas, que nous allons certainement avoir à affronter de plus en plus, tant, par exemple, l'accroissement de l'influence et du poids politique des idées d'extrême droite et des partis d'extrême droite qui vont venir aux affaires dans les municipalités vont être marquantes de ce point de vue-là. L'histoire nous montre bien, par exemple, qu'une municipalité Front National est une municipalité qui va organiser l'espace public d'une certaine manière et pas d'une autre. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cet espace public, on évacue, on trie, et on évacue un certain nombre de personnes qui sont des personnes qui ne sont pas conformes. Je pense aux arrêtés municipaux que nous attaquons systématiquement en tant que Ligue des droits de l'homme et qui font que, par exemple, les SDF ou les personnes qui sont en train de madiller sont interdites, voire à certains endroits. Il y a des pratiques de déportation, j'ai mis de manière un petit peu forte, mais c'est le terme, hein, c'est-à-dire qu'on va attraper quelqu'un dans la rue, parce qu'il, d'une certaine manière, il n'est pas conforme, et on va aller l'amener ailleurs, de façon à ce que l'espace public, d'une certaine manière, soit, pardonnez-moi l'expression, propre. Voilà, hein. Et c'est du hard, ça peut être du soft. Hein, c'est, tout le monde sait, par exemple, que le mobilier urbain aujourd'hui est conçu de manière à ce qu'effectivement, il permette qu'il ne puisse pas être l'objet d'appropriations qui paraîtraient abusives par des gens qui sont eux-mêmes, encore une fois, pas, j'ai envie de dire, conformes à la représentation et à la bienséance. Hein, je parle des bancs, je parle de choses de ce style-là, voilà, qui sont des choses pour le moment illégales, mais qui deviennent de plus en plus difficiles à faire casser par les tribunaux administratifs au niveau des arrêtés municipaux. Je pense aussi, dans l'espace public, à la question qui est la question de la normalisation de l'espace public par le biais de la surveillance et particulièrement par la vidéosurveillance. Et là, pour le coup, ce n'est pas que les municipalités, l'extrême droite, qui mettent en œuvre ce genre de choses-là, hein, dans lequel, effectivement, on va mettre en place des dispositifs de surveillance qui vont inverser un rapport qui est un rapport fondamental de notre République. C'est-à-dire que les personnes sont a priori soupçonnées comme étant coupables avant d'être considérées comme innocentes. Ce qui rend les choses très compliquées, parce qu'y compris c'est quelque chose qui est intégré par un certain nombre de concitoyens, qui nous disent quand on débat avec eux, moi ça ne me dérange pas, j'ai rien fait, donc on peut toujours me surveiller. Hein, les gens ont tellement intégré cette inversion des normes, qui est une inversion des normes majeure dans notre droit, qui fait qu'ils n'entendent pas l'argument inverse qui serait de dire, justement, c'est bien parce que j'ai rien fait qu'on n'a pas à me surveiller. Hein, voilà. Pour autant, hein, l'espace public aujourd'hui est sous l'objet et sous le regard de plus en plus important. Et je pourrais développer, si vous voulez, parce que ça demeure, c'est toujours pareil. Hein, ça démarre soft et ça finit hard. Une caméra, c'est en bout de course une normalisation des comportements dans l'espace public par le jeu de la technologisation de ce genre de pratique. On y reviendra s'il faut. Dernier élément pour finir dans le temps qui m'est imparti. L'aspect même et les comportements dans l'espace public. Quand je dis l'aspect, c'est la manière de s'habiller. Hein. Nous commençons à voir apparaître de plus en plus une réglementation sur la manière de s'habiller dans l'espace public. Hein. Voilà. Alors, on voit très bien qu'on a, comment dire, des contorsions sémantiques et juridiques pour réglementer ce genre de choses-là. Et que sous le regard de la Cour européenne et des droits de l'homme, c'est assez difficile à faire passer. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la tentation, de plus en plus, de faire qu'un certain nombre de comportements et d'habillements soient évacués de l'espace public. Hein. Il y aurait des habillements qui seraient des habillements qui ne seraient pas conformes à la norme qui serait la norme admise. Hein, c'est pas du tout la règle du jeu de, j'ai envie de dire, de entre guillemets notre République. Voilà. Juste pointer aujourd'hui, de manière un petit peu négative, mais on pourra évoquer éventuellement par la suite, en quoi ces points d'alarme, ces clignotants que je suis en train de poser, peuvent être combattus par de la pratique citoyenne ou la pratique militante. Mais aujourd'hui, donner quelques éléments sur un peu la question de l'espace public et les droits de l'homme. Voilà.
Bonjour, moi je voulais commencer aussi simplement par déjà remercier ce festival, ce lieu, les gens qui s'en occupent pour cette invitation. C'est très précieux d'avoir l'occasion, quand on fait des films comme moi, de pouvoir les montrer, pouvoir donner une vie au film, supplémentaire qu'une simple diffusion à la télé, et pour pouvoir rencontrer des gens. Je ne suis pas un expert de la rue, ni des droits de l'homme, même si les deux m'intéressent considérablement. Donc je vais être encore plus court, et c'est pour ça que je prends un ton beaucoup plus lent et calme. La rue, moi je la connais, on a tous une expérience évidemment de cet espace-là. Je la connais simplement peut-être d'une façon un tout petit peu différente, parce que c'est quasiment mon lieu de travail premier. Je crois que c'est l'endroit dans lequel je filme le plus, et je filme, j'ai la chance de pouvoir filmer dans la rue un peu partout dans le monde, et donc il y a des différences. On se rend compte très très vite lorsqu'on pratique la rue dans un cadre professionnel de certaines différences selon les époques et selon les territoires. On a besoin d'autorisation lorsqu'on filme dans la rue, c'est un espace qui est public, mais dès qu'on pose des éléments mécaniques, on a besoin de solliciter des autorisations. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que non seulement il fallait des autorisations administratives, mais il fallait de plus en plus des autorisations auprès de certaines marques, parce qu'il y en a partout. Il y en a juste partout, et les marques, ça peut être des magasins, qui vont de plus en plus souvent dans les centres-villes être fabriqués, architecturés par des noms célèbres, et c'est comme des signatures. Et donc pour filmer certains monuments et certains maintenant magasins, on est obligé de demander des autorisations à des gens. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est je pense que c'est que la rue, à certains endroits, peut faire peur. Lorsqu'on est avec une caméra, parfois pour nous, parce qu'on peut aller, on peut se retrouver dans des endroits qui peuvent être a priori un peu dangereux, et puis on a des réactions lorsqu'on y a des caméras partout, et moi je travaille beaucoup là-dessus sur les caméras de surveillance, mais lorsqu'on rajoute encore une caméra, les réactions des gens sont justement très très violentes, et je me suis rendu compte que plus on était dans des pays démocratiques, et plus les réactions sont violentes. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de plutôt positif ou de plutôt négatif. En fait, moi, n'étant pas un expert, je ne peux que poser des questions et on pourra revenir sur tout ça. Une des choses qui a été citée et qui me paraît super intéressant, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus si jamais ça vous intéresse, c'est sur ce que change Internet, puisque maintenant, on n'arrête pas d'en parler, Internet change à peu près tous les domaines de nos vies. Et je me demandais, puisque vous avez cité les flash mobs, j'avais envie de savoir si justement cette sorte de récupération comme ça de choses rapides et totalement hors contrôle était quelque chose qui pouvait avoir une signification intéressante, et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à développer là-dessus. Les flash mobs, c'est simplement des rendez-vous qui sont donnés sur Internet à travers des réseaux. Donc les gens se donnent rendez-vous à une heure précise, à un endroit précis, et vont participer à une action. Elle peut être de n'importe quel ordre, mais plutôt qu'une manifestation qui va demander une autorisation, qui va être prévue, qui va être organisé sur un long temps. Là, le flash mob, flash, donc quelque chose de très rapide, et mob, ça veut dire foule. Donc c'est des réunions du plus grand nombre et de façon quasi spontanée, quasi immédiate. Voilà, et je trouve que c'est quelque chose un nouvel investissement dans la rue qui peut être intéressant à développer. Il y a une dernière chose que j'avais envie de dire, puisque le film que je suis venu présenter ici est un film paranoïaque, qui parle de surveillance et qui parle de caméras de surveillance dans une ville. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose que j'aimerais voir développer. C'est une thématique, cette différence entre espace public et espace privé, vous en avez un petit peu parlé. De plus en plus, moi j'ai l'impression que les deux choses se confondent et qu'on parlait de son chez-soi qui est supposé être un endroit privé, et moi je me suis rendu compte et évidemment à travers ce petit prisme paranoïaque que chez moi, lorsque je suis sur Internet, on sait exactement ce que je suis en train de faire, on sait exactement ce que je suis en train de regarder, on sait exactement avec qui je communique. Et d'un seul coup, parce que j'utilise des sites qui sont eux-mêmes privés, ma vie privée, lorsque je suis chez moi, devient aussi d'une certaine manière, ne m'appartient plus entièrement. Et dernière chose, c'est que, enfin, c'est pas seulement Internet, c'est l'audimat, c'est toutes ces choses-là qui permettent de plus en plus de pister, de tracer et de savoir un peu partout, en dehors des caméras de surveillance qui sont à l'extérieur, on a quasiment des outils de contrôle et des outils de surveillance qui sont chez nous. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant. Voilà, on pourra parler de tout ça un petit peu plus si vous le souhaitez.
Beaucoup de points ont été évoqués, donc je pense que là, c'est bien de prendre le relais dans la salle.
Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question au monsieur de la LDH, là.
Je me pose la question par rapport aux dernières lois qui ont été votées donc, en Espagne, qui sont très dures par rapport justement au droit de manifester, qui pénalisent et qui empêchent pratiquement toute expression syndicale, politique, associative dans la rue. Ma question est-ce que ces lois sont pas simplement compatibles, mais est-ce que elles sont légales au vu du droit international, du droit européen, des juridictions? Je me pose la question parce que est-ce que c'est une étape pour voir si ça marche, après l'étendre dans les autres pays? Donc je me pose la question. Merci.
Bon, oui, les lois, effectivement. Alors, les lois qui vont être votées, puisque la loi à l'heure actuelle n'est pas votée en Espagne, elle est votée. Il est en vigueur le 1er juillet. Voilà. Donc c'est pas. Si elle était attentatoire à un certain nombre d'éléments du droit européen, la Cour européenne des droits de l'homme sera amenée éventuellement à trancher de ce point de vue-là. Après tout, il appartient à un Parlement de voter un certain nombre de lois. C'est un des intérêts de l'Europe. Il n'y en a pas beaucoup, donc au moins utilisons celui-là, de pouvoir se retourner vers une juridiction qui est une juridiction qui est surplombante par rapport à des juridictions qui sont des juridictions nationales. Et donc, si elle n'est pas conforme, elle pourra effectivement être limitée. Pour autant, alors voilà, c'est est-ce que c'est conforme ou pas conforme? La Cour européenne pourra le dire. Sur la première question. Sur la deuxième question, est-ce que je crois comprendre, c'est est-ce que ce qui se passe en Espagne est quelque chose d'un petit peu prémonitoire, ou est-ce que c'est une tendance qui est une tendance lourde qu'on peut voir arriver, qu'on peut voir au niveau de l'Europe? Je ne suis pas en capacité aujourd'hui de le dire. Ce que je peux dire, nous, ce qu'on peut voir, nous, depuis l'association que je représente, qui a une vue assez large concernant ce qui se passe en France, c'est que la répression syndicale ou la répression de manifestations politiques sur l'espace public est quelque chose qui se durcit dans les faits. Aujourd'hui, on peut constater que, par exemple, le maintien de l'ordre est un maintien de l'ordre qui fait mal. Alors, on peut le voir, on l'a vu dans des aspects qui sont des aspects un peu particuliers. Je pense, par exemple, à ce qui s'est passé à Sivens. L'affaire de Sivens, c'est une affaire dans laquelle on est au travail, on va remettre un rapport d'enquête dans les semaines qui viennent, et dans lequel on voit bien qu'aujourd'hui, l'État, et quand je dis l'État, quand on essaye de remonter la chaîne de commandement, on est assez surpris sur le fait qu'à des moments donnés, il y a des décisions qui sont prises à des endroits où on imagine qu'elles ne sont pas prises. À des moments donnés, on ne sait pas tellement à quel niveau politique. Si le politique a la main sur le technique, mais par exemple à Sivens, on a vu une police qui fait très mal et qui a un maintien de l'ordre, qui est un maintien de l'ordre. Alors on a vu, il y a un mort, mais ce mort-là est un mort qui est indicatif de semaines de pratiques, qui sont des pratiques extrêmement dommageables sur le droit des individus. Et ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans la manière dont le maintien de l'ordre est assuré, c'est quelque chose qui est quelque chose de dur, qui se durcit dans les différentes manifestations. C'est la logique aujourd'hui à laquelle on assiste en France. Pourquoi ? Peut-être bien que ce à quoi nous assistons aussi, c'est une volonté, d'une certaine manière, de limiter l'expression politique dans des espaces qui sont des espaces publics, en dehors de la manière dont c'est médiatisé par des élections. Et c'est peut-être aussi le produit du fait qu'il y a une relative méfiance, une relative, j'ai envie de dire, crainte, sur les débordements possibles, eu égard à la crise qui est la crise majeure du politique qu'on connaît. pour le dire autrement, la manifestation aujourd'hui peut devenir dangereuse parce qu'effectivement, elle va, c'est par ce biais-là que va passer, à des moments donnés, des débats politiques qui n'arrivent plus à se faire dans un espace qui est un espace qui n'a plus forcément ni sens ni intérêt pour les gens qui le jouent. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Je ne donne aucune réponse en termes techniques de ce point de vue-là parce qu'on ne peut pas en donner. Mais c'est plutôt un élément d'analyse qu'on peut faire. Ça durcit. Voilà.
Merci. Attendez, il y a une question en haut oui. Et après ça viendra vers
pardon,
vous.
Pardon, merci. Mais moi je suis assez inquiète parce que je crois que sous couvert de sécurité des citoyens, on est en train de faire passer des lois. Alors là c'est en Espagne. Il me semble que sous le gouvernement précédent, on en avait eu quelques-unes aussi en France. Je ne sais pas d'ailleurs exactement, je ne sais plus. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se réunir de façon spontanée sans demande d'autorisation préalable aujourd'hui dans la rue. Je me trompe peut-être. Et ensuite, je crois que quand on a des gouvernements qui n'entendent plus les structures syndicales, ils ne peuvent qu'avoir des craintes sur ce qui pourrait éventuellement se passer. On a quand même eu des politiques qui ont dit « ce n'est pas la rue qui commande ». Donc la violence policière qu'on voit, et d'ailleurs elle est relative hein, parce que ça dépend aussi qui sont les manifestants, la violence n'est pas la même selon les manifestants. Voilà. Moi tout ça m'inquiète beaucoup.
Peut-être je repasse à Jérôme parce que dans les événements spontanés dont il parlait, il y a une forme de réel.
Ouais, exactement, je pense que c'est quelque chose à considérer. Et les choses sont en train de changer. Moi j'ai l'impression qu'il faut quand même... essayer de réfléchir dans ce sens-là et ne jamais s'avouer vaincu. C'est-à-dire que si des lois arrivent pour contraindre, pour empêcher, pour conformer, pour formater, bah, il faut aller ailleurs. Il faut avoir de l'imagination et il faut trouver d'autres systèmes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais juste les flash mobs. Pour le moment, la plupart du temps, c'est des gens qui ont des idées un peu décalées, un peu rigolotes et qui vont s'allonger par terre, bloquer un truc. Mais c'est pas grand-chose, ça peut être extrêmement poétique et extrêmement joli, mais la dimension politique et la dimension contestataire ou militante en général, c'est pas l'objet le plus souvent, mais peut-être que ça peut le devenir, peut-être que ce type de fonctionnement, par ce type de regroupement, peut fonctionner, peut être une idée. Je sais pas, en tout cas c'est une question.
Juste quand même une précision technique, on ne peut formellement pas organiser une manifestation dans une rue sans en demander l'autorisation ou à minima sans en informer la puissance publique. Voilà, hein. Je veux dire, ça, c'est pas neuf. Hein. On peut organiser un rassemblement pour autant qu'il ne... Alors c'est vraiment de la cuisine. Hein, pour autant qu'il ne soit pas un entrave à la circulation qui est la circulation dans l'espace public. Sachez-le, mais à partir du moment où effectivement il y a un risque de ce point de vue-là, en règle générale, au moins on informe si cela demande de l'autorisation à la préfecture, qu'il autorise ou qu'il autorise pas. Oui, voilà.
Il y avait une question là aussi.
Justement, je voulais revenir sur ces restrictions aujourd'hui de manifestations et autres. Les deux exemples ont été donnés sur l'Espagne et sur la France. Je veux dire, c'est d'autant plus intéressant en Espagne parce que sur cet aspect restrictif, il y a eu quand même une réponse politique qui a été donnée électoralement, qui est plus que des simples manifestations de rue avec des banderoles ou des pancartes. Il y a eu un mouvement de fond dans le pays, en Espagne, qui donne aujourd'hui une autre image de ce que pourrait être un rapport de force par rapport à ces aspects restrictifs d'un pouvoir, quel qu'il soit. Alors, je veux dire, attention, parce qu'il y a d'autres élections qui se profilent. Donc, ça va être une course de vitesse, justement, entre le restrictif ou alors est-ce qu'ils vont donner à continuer à jouer ces basculements qui se sont déroulés. Alors, en France, je crois que c'est d'autant plus facile à mettre en place, parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un mouvement social, je veux dire, qui est un peu atome et qui, je veux dire, ne dépasse pas le cadre organisationnel, je veux dire. S'il y a des luttes en recul, c'est en recul. Puis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va refaire des énièmes journées de ceci, de cela, et on en est, disons, toujours au même point. Et ça, le pouvoir, il a très bien analysé où en était le mouvement social en France, où il peut aller plus loin, justement, dans ces aspects de restriction.
Merci. Michel, tu veux dire quelque chose ? Non, je croyais. Non.
Je voudrais évoquer la loi du 12 juillet 2010 qui permet à un maire dans sa mairie de faire mettre en psychiatrie pendant 3 semaines une personne qui gêne, telle qu'à l'affaire de Loupian, où un écologiste qui demandait sur une zone Natura 2000 pourquoi un tel morceau de terre était réservé au maire, il n'a pas eu de réponse. Et on a appelé les gendarmes et il a fait une semaine seulement de psychiatrie où on l'a forcé à prendre des médicaments alors qu'il refusait, où les infirmiers l'ont tabassé. Et c'est grâce à la LDH qui ce jour-là est venue et les faucheurs volontaires, et parce qu'on a été nombreux, qu'il a fait qu'une semaine. Mais cette loi du 12 juillet 2010, elle est faite pour mettre en prison ou en psychiatrie comme des malades, comme des fous, toute personne gênante.
Alors, je ne sais pas si continuer à parler de ce qui se passe en Espagne, peut-être on va saturer, mais c'est peut-être pour compléter ce qui a été dit. La situation en Espagne, ces dispositions qui ont été prises, c'est grave. Alors, il y a en Europe deux pays qu'on doit observer actuellement, c'est la Grèce et l'Espagne. Et établir une comparaison avec, par exemple, la France et les autres, je ne sais pas si c'est pertinent, parce que c'est assez difficile. Alors, en Espagne, le gouvernement en place actuel, c'est le PP, donc qui est le gouvernement de toute la droite, hein, de la droite jusqu'à l'extrême. C'est pas fractionné comme en France. Alors, ce gouvernement se trouve confronté à une situation politique qui est extrêmement défavorable, qui vient du fait que le mouvement des indignés, qui a commencé il y a 3 ans, qui est un mouvement qui s'est construit sur la rue. Sur la rue et essentiellement sur la manifestation dans l'espace public. Toutes les manifestations sur l'espace public. Ce mouvement s'est métamorphosé en mouvement politique en très peu de temps, donc pour les élections européennes, en 4 mois, Pablo Iglesias, qui est le numéro 1, a réussi à avoir un nombre de députés en Europe imprévu. C'est un mouvement qui s'est construit très très vite et les outils qu'il a utilisés, Pablo Iglesias est un universitaire qui maîtrise l'outil télévision et bien sûr avec ses collègues qui maîtrise également tous les outils que propose Internet. Donc, ça a été extrêmement rapide. Aux dernières élections municipales, il y a confirmation. Maintenant, ils sont, d'après les nouvelles, ce qui est donné sur El País, les sondages mettent le PSOE, le Parti Socialiste, le PP, Podemos, et puis il y a un nouveau parti qui vient de se créer également très rapidement, c'est Ciudadanos, ils les mettent à égalité. Ce qui fait que disons, le gouvernement est dans une situation, il commence vraiment à baliser complet. Et donc, ils ont pris des mesures parce qu'ils ont peur, quoi.
Voilà. Merci. Je me demandais si on a pas mal abordé l'État, la législation européenne, espagnole, française. Je me demandais si on pouvait revenir dans la dernière partie, la dernière demi-heure du débat sur espace public, espace privé. Ça veut dire aussi nous, chacun, par rapport à sa ville, à son quotidien, comment l'occuper, comment réagir, enfin, par rapport à tout ce qui a été dit avant même d'arriver aux politiques. Voilà, je vous suggère ça, mais c'est à vous la parole.
Oui, moi je voulais intervenir sur la notion d'ordre public, parce que très souvent les interdictions ou les autorisations sont faites en fonction de l'ordre public. Alors qui définit l'ordre public? C'est quoi l'ordre public? Distribuer des tracts, arrêter, faire gratuitement le péage d'une autoroute, etc. Bien sûr qu'on perturbe l'ordre public. Et que si on ne peut plus perturber l'ordre public, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun changement politique, il n'y a plus aucune opposition possible. Et donc il faut absolument revendiquer ces troubles de l'ordre public, parce qu'on est là pour ça. Parce que sinon les gens ils s'endorment ou ils restent devant leur internet. Donc ça serait intéressant d'interroger qui définit l'ordre public et qu'est-ce qui le dérange. Et justement à ce propos, je voudrais... C'est un petit croche-pied, un monsieur qui représente la Ligue des droits de l'homme, hélas. C'est sur cet ordre public, comment il est malheureux que l'agence locale de la Ligue des droits de l'homme, je ne sais plus où, se porte plainte, en tout cas, contre des militants BDS Palestine parce qu'ils ont distribué des tracts. Je trouve ça dommageable. Il faut autoriser à tout le monde le droit de s'exprimer, même si c'est contre nos idées. Alors, bien justement, quand vous êtes là, vous allez pouvoir vous expliquer, parce que si c'est de la désinformation... Mais je voudrais bien qu'on puisse revenir, et ça serait peut-être la dame sociologue, sur cette notion d'ordre public, parce qu'il me semble aussi que là, on aurait peut-être un terrain à bagarrer pour se justifier.
Juste préciser, parce que mais je pense que ça n'intéresse pas grand monde ici, il ne s'agit pas du tout de distribution de tracts. La Ligue des droits de l'homme s'est portée a attaqué en justice BDS 34 parce qu'un certain n'a pas attaqué en justice BDS 34, a attaqué en justice deux membres de BDS 34, hein, qui est une organisation qui prône le boycott, le dévestissement en Israël, des produits israéliens produits en Palestine et des produits israéliens, pour des publications sur un compte Facebook qui sont des publications notoirement antisémites. Je tiens à la disposition des personnes qui voudraient des éléments, à la fois les dessins et les textes qui ont été publiés. Je précise, la Ligue des droits de l'homme, comme elle attaque systématiquement toute publication, qui soit des publications qui peuvent être racistes, hein, quelles qu'elles soient, d'où partout qu'elles viennent, de ce point de vue-là, et encore une fois, je tiens à disposition pour qui veut les éléments, nous avons porté plainte contre ces choses-là. Nous continuerons à le faire systématiquement. Nous l'avons fait contre Dieudonné, nous l'avons fait contre Le Pen. Nous sommes effectivement attachés à ce qu'il n'y ait aucune expression raciste ou antisémite qui puisse exister. C'est un poison. Ces choses-là sont un poison, qui est un poison qui discrédite tout combat pour autant aussi démocratique ou de défense des droits de l'homme peut-il être. Voilà, juste dire ça. Il ne s'agit pas de distribution de tracts. Je pense que les choses, il faut mettre les choses de ce point de vue-là au point et arrêter la désinformation. Hein, les dossiers sont. Nous allons d'ailleurs communiquer de manière un peu plus large de ce point de vue-là, de façon à ce que les gens qui ont été mal informés ou qui ont éventuellement une oreille sélective puissent éventuellement prendre les choses comme elles sont. Voilà. Juste, je tenais à le dire. Après, je ne sais pas sur d'autres.
Michel,
Madame la sociologue, c'est ça, je crois. J'ai dit très très vite que l'espace public comme espace, je vais plutôt parler de l'espace social. Hein. L'espace public, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y ait des gens qui circulent, qui font des choses, comment ça se passe. Il me semble que l'espace social... Qu'est l'espace public, c'est forcément un espace extrêmement complexe parce que ça bouge, tout le monde peut y venir, enfin après je vais venir pourquoi. On fait des choses différentes, c'est mobile, ça bouge tout le temps, donc c'est un espace qui est relativement instable. D'autre part, les gens ne se connaissent pas, donc ce n'est pas un territoire qui peut se réguler comme ça de l'intérieur. Donc l'espace public d'une ville dense, c'est extrêmement complexe. Ça suppose des régulations. Et alors, justement, une des choses qu'avaient essayé d'analyser les sciences sociales, entre autres Isaac Joseph, je veux quand même le nommer parce qu'il a été très important pour essayer de comprendre comment se fait-il que finalement les espaces publics ne soient pas plus conflictuels qu'ils ne sont. Si on considère par exemple le métro qui est un espace public, bon, dans une enceinte privée, mais finalement c'est un espace du public aussi. La question que se posaient les sociologues, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de gens qui se cassent la gueule, quoi, comme qui s'affrontent, qui se cassent la gueule. Comment se fait-il? Comment ça se fait? C'est une vraie question, ça. Le métro, c'est dense, il fait chaud, c'est pas les conditions, etc. Et finalement, ça se passe pas trop mal. Donc l'idée, c'est qu'il y a des autorégulations. Et ces autorégulations, c'est tout ce qu'on a appelé des codes de civilité. Il y a une façon de se comporter avec l'autre dans ces espaces d'anonyme, dans une espèce de distance, ce qu'on appelait l'inattention polie. On fait attention, mais en même temps, on ne fait pas trop attention. On fait attention à l'autre simplement par fonctionnalité, parce que si vous avancez, vous avez quelqu'un devant, vous faites attention, pas marche. Voilà, vous voulez trouver votre chemin. Donc voilà, il y a des arrangements, il y a des négociations qui se font de l'intérieur même, je dirais, du social. Il y a une mouche qui m'ennuie plus que la question d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est ma première réponse. La deuxième, il y a des régulations qui se font par les pouvoirs publics. Alors je vous parlerai plus des régulations, non pas de l'État, mais des collectivités locales qui s'en chargent de ces espaces publics. Par exemple, il y a des réglementations, il y a des règlements municipaux d'occupation de l'espace public. Vous n'avez pas le droit de boire, vous n'avez pas le droit de pisser n'importe où, vous n'avez pas le droit de faire du bruit après 10 heures. Enfin, il faudrait voir à chaque ville à sa réglementation. Oui. Donc, en fait, voilà, ça, c'est une régulation. Alors, c'est peut-être pas la question que vous posez, parce que vous êtes plutôt dans la dimension politique, je ne sais pas, au sens étroit ou très large, je ne sais pas. Moi, je vous parle de l'ordre social des espaces publics. Et je pense que par rapport à ce que j'ai dit, tous ces phénomènes comme ça qu'on voit de rassemblement un peu, dont on peut trouver peut-être un côté subversif, mais ça se propage tellement et ça devient tellement un mode presque normatif de comportement qu'on peut quand même se poser des questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non ? Mais en tout cas, l'espace public, il faut avoir dans la tête que c'est un espace social complexe et qui se régule. Alors, ça se régule par soi-même ou ça se régule par des pouvoirs publics?
Je voulais poser une question, c'est en liaison justement avec ce que vous venez de dire un peu sur la réglementation de l'espace public ou ce qui a été dit précédemment quand ont été évoquées des questions d'ordre législatif. J'habite la ville de Montauban. Et s'est mis en place depuis quelque temps la notion de voisin vigilant, mais dans les dires, c'est dans les faits, c'est-à-dire que dans les rues, il y a un œil qui représente et c'est marqué dessous voisin vigilant. Et récemment, nous avons eu un repas de quartier où cette question a été abordée. Nous étions une quarantaine de personnes. Ça a mené un débat lors de la soirée qui était assez intéressant. Il y avait des gens finalement qui sont favorables, d'autres. Beaucoup moins, d'autres contre. Et justement, alors je voulais savoir si, dans le cadre législatif au niveau national, c'est quelque chose, si ça existe déjà ailleurs, si c'est autorisé, ou si c'est de bon vouloir d'une municipalité. Et quel regard vous portez sur cette notion de voisin vigilant? Moi, ça m'inquiète un peu, mais je voulais avoir votre sentiment là-dessus, quoi.
Non, c'est un programme. Hein, c'est un programme qui a été mis en place. dans le gouvernement, par le gouvernement précédent et qui continue à être mise en œuvre par le gouvernement actuel, comme un certain nombre d'autres choses en termes de sécurité publique, on va dire. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, c'est un programme canadien, enfin anglo-saxon, hein, qui est un programme d'organisation. On parlait là d'autorégulation sociale, hein, qui est un programme d'autorégulation communautaire, hein, comme le connaissent les sociétés qui sont les sociétés anglo-saxonnes, qui ne sont pas sur notre modèle social à nous. Nous sommes sur un modèle, nous, de régulation individuelle par le haut, par la loi, hein, alors que les pays anglo-saxons sont souvent des modèles de régulation par le bas, hein, sur un registre qui est un registre communautaire. Juste dire ça, c'est une, d'une certaine manière, anglo-saxisation de la sécurité publique. Voilà. La loi ne dit rien par rapport à ça, dans la mesure où ça ne touche en rien quelque chose qui a à voir avec la loi. Ce sont des pratiques, hein, et ce n'est en rien ni transgressif ni exorbitant par rapport à la loi. La loi n'est pas modifiée par rapport à ce genre de choses. Alors, voilà, juste dire ça. C'est pas étonnant qu'à Montauban se soit promu, quand on connaît Madame le maire de Montauban, je ne sais plus pour combien de temps encore, mais on imagine bien qu'elle l'a d'autant plus mise en œuvre. Ça renvoie à ce que j'ai pu dire sur une certaine manière de penser la liberté publique quand on est l'espace public quand on est aux manettes d'une municipalité. Qu'est-ce qu'on en pense, la Ligue des droits de l'homme et d'autres organisations aussi, c'est que. J'ai envie de dire que le voisin jette un coup d'œil chez le voisin d'à côté pour voir pendant les vacances on n'a pas cassé un carreau ou si on n'a pas piqué la télé. J'ai envie de dire c'est quelque chose qui est quelque chose, entre guillemets, la sociologue va me tirer les oreilles, elle aura raison, de naturel, et à la limite, on peut dire, ça peut être un réflexe qui est un réflexe, pourquoi pas, elle va me retirer les oreilles, comment dire, de bon sens. Pourquoi ? Parce que c'est culturel et que ce n'est pas du tout du bon sens, c'est du sens construit. Mais que ça devienne un programme et une organisation qui est une organisation qui, malgré ce que peuvent en dire les gens, dans un durcissement, alors il faut le regarder par rapport au contexte aussi, dans un contexte de durcissement politique, économique, social, avec des rapports y compris d'ethnicisation, des rapports sociaux qu'il peut y avoir, hein, dans la société, là, pour nous, ça devient, dangereux, hein, dangereux parce que ça peut être d'une certaine manière la construction. Alors, ça peut être, c'est ça que c'est un petit peu pervers, hein, on va dire de milice pour faire vite, hein, mais du moins d'une organisation comme ça, de l'ordre par, ça c'est le modèle anglo-saxon là aussi, hein, par la communauté, qui fait que il faut faire très très gaffe, hein, parce que effectivement ça peut y compris aller. Alors c'est toujours très intéressant pour les forces de police parce que c'est une économie de moyens et d'action. Hein. Ce que les citoyens entre guillemets feront, ce sera ce que la police aura de moins à en faire. Pour le dire crûment, on est plutôt contre, pour le dire comme ça. On est carrément contre si c'est la mise en place d'un système et qui est un système à l'échelle nationale qui vient d'une certaine manière compenser le fait que la police nationale, pour autant qu'il faut s'en méfier, comme de n'importe quelle constituée, mais au moins on peut la contrôler pour le coup, elle est un minimum encadrée, alors que pour le coup, hein, les voisins vigilants, c'est une autre paire de manches. Voilà.
Le bon sens, par contre, je partage absolument le bon sens, mais le problème, c'est dans des sociétés aussi individualisées, donc les rapports de voisinage vont varier suivant les quartiers, suivant les gens qui y habitent, suivant la méfiance, le désir de repli, au contraire, surtout par sembler à l'autre, nous, on est mieux que lui. Non. Tout ça, ça dépend vraiment des quartiers, des gens qui habitent. Sur les relations de voisinage, bon, je pourrais en parler, mais pas tellement l'objet, mais par contre ce programme, je crois que je suis un peu en retard, mais je le connais pas, j'en ai pas entendu parler, et à mon avis, il n'existe pas à Paris.
Non, je crois pas. Juste pour enrichir le débat, je pense que, en tout cas, votre débat et votre questionnement, c'est intéressant, comme ça a été dit, de regarder un peu ce qui s'est passé, et en tout cas principalement aux États-Unis. Au Canada, c'est toujours plus sympathique hein, que ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu pas mal de dérives. On parlait, le mot milice a été employé, et je pense qu'on peut véritablement dire que ça s'apparente à ça. C'est des gens avec des uniformes, et c'est en général des mecs. On a l'impression qu'ils partent un petit peu en chasse. Ils se retrouvent, c'est plutôt sympa. Ils partent et puis ensuite il peut se passer des tas de choses. C'est en général des blancs avec des petits écussons. Ça s'appelle le Neighborhood Watch et ça existe depuis très longtemps. Il y a eu des films, aussi bien des films très sérieux que des comédies qui parlent de ça. Et je pense que ça peut alimenter votre débat de regarder ça un petit peu de plus près parce que tout de suite on voit les dérives, tout de suite on voit le côté sympathique et voisins solidaires disparaît assez vite dans le côté normatif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une lumière allumée ou une lumière éteinte là où elle devrait être allumée, et tout de suite, ça provoque des réactions. Tout le monde essaye de devenir les mêmes, de se comporter de la même façon, parce que sinon, on peut d'un seul coup être pointé du doigt. Quelque chose sort de l'ordinaire, et donc d'un seul coup, on est montré, on est marqué. Voilà, c'est la dérive numéro un. Ensuite, ça peut aller plus loin, mais voilà, espérons que ça ne prenne pas d'autres proportions. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle le panoptique, hein, c'est-à-dire cette surveillance globale, cette surveillance complète. Ben, ça existait, c'était même pas la surveillance. Non, c'était dans les prisons et c'était à travers des vitres comme celle-là. C'était pas ça.
Attends, moi je veux. Pardon. On vous entend pas. Attendez, même par rapport à voisins vigilants, il y a d'autres questions qui voulaient être posées.
Merci.
Excusez-moi, j'aurais juste rajouté par rapport à ce que j'ai rien dit, mais. Je ne connais pas ce programme, mais il joue sur de velours, quoi. Parce que dès qu'on dit voisin, voisinage, on dit solidarité, voilà, donc avec tous les risques de dérapage.
Alors bonsoir à tous. J'avais une question à vous, madame sociologue. Je crois que c'est ça. Je ne me souviens plus de votre prénom et nom, je suis désolé. Tout à l'heure, vous parliez du métro. Et vous disiez que ça paraissait étonnant que ça se passe bien dans le métro, puisqu'on était tous les uns sur les autres. Mais partir de cette analyse, ça veut dire qu'on considère que l'homme est un loup pour l'homme.
C'est vrai que ça peut être qu'on considère comme une conception un peu défensive. Hein. Mais c'est vrai aussi que dans la mesure où on... Enfin, il faut aussi peut-être... Remettons-nous simplement au début du siècle, 20e siècle, enfin au début du 20e siècle, où tout d'un coup, c'est là que les villes ont grandi brusquement et on avait un ordre social qu'on ne connaissait pas. Et donc, il y a un philosophe, Georges Simmel, qui décrit très très bien ces nouveaux rapports sociaux dans les grandes métropoles. Et entre autres, il décrit une situation de bus. C'est-à-dire... C'était tout à fait surprenant, tout d'un coup, au XXe siècle, vous êtes dans un bus, vous faites un petit trajet et vous êtes en face de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Auparavant, on est plutôt dans des communautés d'interconnaissance. Et brusquement, vous êtes dans un univers. Donc c'est vraiment une rupture absolue du social, quoi, avec l'émergence de ces grandes villes. Donc vous êtes en face de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, il y a tout un apprentissage à faire, d'abord de silence, de regard. Est-ce qu'on regarde ? On ne regarde pas, on regarde à côté. Enfin, vous avez aussi bien que moi tout ce que ça suppose comme tactique pour rester en face de quelqu'un pendant une demi-heure dans le métro.
Généralement, un petit salut de la tête, ça suffit, ça calme.
Généralement, on ne fait pas de signe.
Mais je veux dire, avant le XXe siècle, il y avait le train aussi, où des gens se rencontraient. Il y avait,
parce qu'on se connaissait.
L'humanité,
parce qu'il y avait de l'interconnaissance. Vous êtes dans une grande ville, et que par exemple, moi je défends un peu cette idée de, comment dire, de distance... polie, on va dire, attentive quand même, mais quand même dans une distance. C'est ce que dit Simmel, par exemple. Si vous, si par exemple tout le monde dans le métro vous dit bonjour et commence à vous parler, vous allez être très fatigué à la fin de la journée. Parce que...
Pardon.
Oui, non, mais bien sûr.
Mais c'est une forme d'ordre social. Mais je comprends très bien, et il y en a d'autres.
Le problème que ça me posait de dire ça, c'est que je me dis, si on part de ce principe-là, qu'on est tous des dangers pour les autres, c'est fini, quoi. On est obligé de faire des restrictions partout, de vouloir maîtriser.
Ça peut déraper, Ça peut déraper.
Enfin, on n'a pas attendu l'ordre social pour arriver à évoluer.
Que oui.
Voilà,
oui,
c'était juste ça. Et je peux poser une... Ouais, non, ok, pas de soucis.
Je voulais revenir sur la surveillance. On a parlé de panoptique et de l'acclimatation à cette surveillance généralisée à travers la vidéosurveillance notamment. Et alors, moi, j'ai été parisien et j'ai participé avec un collectif fin des années 90, un collectif qui s'appelait Souriez, vous êtes filmé, à la lutte contre la vidéosurveillance à Levallois-Perret notamment. Et à l'époque, Souriez, vous êtes filmé, c'était un slogan contre la vidéosurveillance. Et alors, je vais plus beaucoup à Paris, mais je me suis retrouvé à Paris et j'ai vu dans les bus, il y avait des écriteaux, il y avait partout Souriez, vous êtes filmé, avec un petit sourire, et ça paraissait une publicité pour la vidéosurveillance.
J'ai
pris conscience qu'il y avait eu un changement. Dans la récupération du slogan, et peut-être que ça éclaire peut-être sur l'acclimatation en fait de la population à la vidéosurveillance. Et donc bon, a priori aujourd'hui c'est quelque chose qui est généralisé dans les grandes villes, même dans les petites villes peut-être, enfin j'en sais rien. Et donc je voulais avoir votre regard sur est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est passé. Est-ce que la population maintenant sait qu'elle est vidéosurveillée et accepte cela? Est-ce que c'est en fait lutter contre la vidéosurveillance? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu rétrograde aujourd'hui par rapport à la vision de la collectivité?
Je commence juste. C'est quelque chose dont on a un petit peu parlé précédemment, mais j'ai un peu peur de le dire comme ça, mais je pense que lutter contre est devenu inutile. C'est-à-dire que les résistances en général, et c'est vrai qu'il y a eu des tas d'associations, il y a eu des tas de groupements et de mouvements pour lutter contre l'avènement, contre le développement, et à chaque fois on se rend compte qu'il suffit qu'il y ait un événement important pour que les politiques s'en fichent et oublient tous les débats et accroît le nombre de caméras s'accroît. Moi j'ai l'impression que la lutte elle est plus là. La lutte elle est dans comment trouver les moyens pour s'en accommoder mais détourner les choses. Et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir un peu plus d'imagination. Et plutôt que d'opposer un refus qui, au bout du compte, se trouve être un petit peu inutile, que ce soit Internet, que ce soit les caméras de surveillance, que ce soit n'importe quel type de contrainte qu'on essaye d'imposer, ou de regard comme ça porté et qui peut priver de liberté, je pense réellement, mais c'est un effort à faire, parce que sinon la résistance reste molle et reste inutile. Je pense qu'il faut avoir de l'imagination et qu'il faut arriver à en jouer. Et à détourner les choses d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, pour les actions les plus violentes, ça peut être de hacker ces caméras et de détourner totalement le système lui-même, comme ça peut être de rigoler avec et d'essayer d'imaginer des événements autour de ces caméras-là. Et exactement pareil avec les cookies sur Internet. Enfin, on parle de contrôle, voilà. De toute façon, moi j'ai l'impression que nos sociétés essayent d'aller de plus en plus vers un contrôle total. Et le job des citoyens, pour moi en tout cas, mais de façon très modeste, c'est d'essayer de trouver des parades, d'essayer de trouver comment conserver au maximum cette liberté malgré toutes ces contraintes. Et on y arrive. Quelles que soient les contraintes, on a toujours réussi, jusqu'à présent en tout cas, plus ou moins, et en tout cas dans ce qu'on appelle des démocraties, à trouver des manières de continuer à... à vivre et à trouver des moyens de s'amuser. Voilà.
Juste une annonce, puis après je passe à Jean-François qui voulait parler depuis un moment. Il reste le temps pour trois questions, les trois dernières questions qui ont été...
Oui, juste sur la vidéosurveillance, je partage sur le fait de l'opposition frontale et de toute façon une mauvaise solution. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de l'espace partagé et du débat. Voilà. Sur la vidéosurveillance, juste au passage, ça s'appelait Souriez, vous êtes filmé. Pour l'anecdote, je connais bien la question de la vidéosurveillance, parce qu'à l'origine, c'était le slogan qu'utilisaient les supermarchés pour filmer les gens. Et le groupe a récupéré ce truc-là. Hein. On allait, il y avait une espèce de grande boule avec plusieurs trucs comme ça, je ne sais pas si vous avez connu. Et il y avait un truc, c'était surveiller, vous êtes filmé. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il faut savoir que réglementairement, normalement, il faut savoir quand on est filmé. La loi oblige à indiquer quand est-ce qu'on rentre dans un périmètre, qui est un périmètre dans lequel on est vidéosurveillé. Autrement dit, le principe de la loi, c'est qu'on ne peut pas être normalement vidéosurveillé en dehors de son propre consentement, c'est-à-dire il suffit de ne pas rentrer pour ne pas être vidéosurveillé. Vous voyez un peu la manière dont... Là aussi, on inverse un petit peu les normes de ce que j'ai dit. Juste dire sur... Est-ce que la question de la vidéosurveillance, elle est complexe, comme toutes les questions qui sont les questions de contrôle. C'est l'équilibre qui entre à un moment donné... Un niveau de sécurité, alors déjà vous voyez le terme de sécurité c'est compliqué, et les libertés individuelles et collectives. Il y a de la vidéosurveillance dont on peut estimer qu'elle a de l'intérêt. Sur une autoroute, une vidéosurveillance qui permet à un moment donné de pouvoir alerter le plus tôt possible les systèmes de secours parce que ça permet d'identifier un accident à un moment donné. Après tout, pourquoi pas ? Même si on sait que par ailleurs... Ça va porter atteinte hein, à la libre circulation et à l'intimité qu'on peut avoir hein, ou à la droit de circuler de manière privée sans être... De notre côté, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une utilisation qui est une utilisation complètement abusive, de manière massive, de la vidéosurveillance. Hein, au passage, un argument extrêmement intéressant, Toutes les sociétés qui sont lancées de manière massive dans la vidéosurveillance en font petit à petit une évaluation qui est une évaluation mitigée, si ce n'est négative. C'est-à-dire dans le rapport investissement-efficacité que ça peut avoir, y compris, c'est quelque chose qui ne tient pas complètement la route. Les Anglais sont en train de se désinvestir et tout et tout. La question de la vidéosurveillance, c'est effectivement, il y a une dimension peut-être un peu sympa de détournement pour manière à indiquer ça, mais il faut que ce soit au débat surtout. Enfin, nous, la position qu'on a, c'est que il faut qu'en permanence la question de la vidéosurveillance soit l'objet d'un débat qui est un débat démocratique, qui fasse qu'on n'implante pas de la vidéosurveillance de manière complètement unilatérale et massive, mais que chaque fois, et ça fait chier les politiques, moi je suis dans une ville à laquelle j'ai participé dans une commission de liberté publique, où on a effectivement, et parce que les politiques ont joué le jeu, dit chaque fois qu'on met des équipements de vidéosurveillance, eh bien on débat, on présente le projet, on mesure, on essaye de voir en quoi éventuellement ça peut être... Il n'y a pas autre chose qui peut être mis en place, etc. etc. Et c'est une certaine manière ça qui peut... Et cette question de la vidéosurveillance, c'est une question qui traverse d'autres types de choses. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'espace public va être mis en place, c'est quelque chose qui intéresse effectivement les... Alors, et c'est... Sinon, le débat, y compris par ailleurs à la question qui est posée, le débat concernant la vidéosurveillance est un débat... L'opposition frontale à la vidéosurveillance, c'est à peu près clair que en dehors de ça, elle est morte, hein, parce qu'elle n'est, y compris, pas viable. Hein, on a le même débat sur la question qui est la question du contrôle des fichiers. Le contrôle des fichiers est quelque chose de... C'est pas l'espace public, mais on n'est pas très très loin en plus. Voilà. Ça renvoie à comment on les contrôle, comment on débat pour limiter effectivement la tendance toujours permanente qu'on a à sécuriser, à surtout pas prendre de risques, y compris, et nous sommes porteurs, y compris nous-mêmes, ce genre de choses, par rapport à l'atteinte aux libertés.
Merci.
Moi, je voudrais parler de l'Agora. Le lieu public où on pouvait s'exprimer, ce qui était un lieu qui, dans l'Antiquité, permettait aux gens de venir s'exprimer. Et je parlerai de lieu public, parce qu'en fin de compte, c'est intéressant, mais c'est un territoire où les gens circulent, qui appartient à tout le monde, où il y a, malgré tout, d'après ce que j'ai compris, on a des libertés individuelles, on a des libertés d'expression, et aujourd'hui, toutes ces libertés sont en train d'être... rongé. C'est comme sous Napoléon III, on avait le droit de manifester, mais pas plus de trois. Donc c'était clair, on savait à quoi on pouvait s'attendre. Et aujourd'hui, petit à petit, on est en train de se renier nos libertés. On accepte facilement de voir l'armée sur les lieux publics pour la sécurité intérieure, alors que moi j'avais toujours appris que l'armée c'était pour nous défendre des agressions extérieures et que la sécurité intérieure c'était la police. On est en situation vigipirate depuis je ne sais combien de temps. C'est ce que j'appelle moi un état d'exception. Il y a, je crois c'est George Orgel Bell qui a fait un livre sur les états d'exception. Et on accepte, on se conforme à ces situations-là et ça passe. Et quand aujourd'hui on est prêt à légiférer pour savoir quelle tenue faut avoir ou ne pas avoir dans ces lieux publics, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la sphère privée des individus? Et là, c'est quand même intéressant de réfléchir. Attention, jusqu'où on peut aller? Parce que quand on veut contraindre les uns, demain, c'est nous qui serons contraints. Je rappelle toujours que Dieudonné avait été interdit. Ils n'ont pas trop dit non hein, quand il a été censuré. Parce qu'eux, ils sont prêts à censurer aussi. Et ils sont d'accord qu'on censure. C'est pour ça que la réflexion est intéressante. Et il faut voir comment nous, on se comporte par rapport à ça et comment on regarde ces choses-là.
Bonsoir. Moi, je souhaiterais revenir sur cette histoire de transport en commun, où tout se passerait supposément bien. Ça m'agace un peu parce que c'est quand même un petit peu oublié le problème d'harcèlement que subissent les femmes, le harcèlement que subissent les femmes, notamment dans les transports en commun, et qui se manifeste notamment par des attouchements dus à cette promiscuité, quand même. Et donc, je voulais le rappeler parce que ça m'énerve un peu qu'on ne soulève pas le problème, parce que vous en aviez parlé dans votre introduction, mais on n'en a plus parlé après. Et par extension aussi, ne pas oublier le fait qu'il y a quand même une domination masculine sur le territoire urbain de manière générale et que le patriarcat s'exprime pas seulement dans l'intimité, dans la sphère privée, il se manifeste aussi dans la sphère publique. Et voilà, enfin, je dis de toute façon, on n'aura pas le temps de le développer maintenant, mais ça m'embêtait un petit peu que ça n'ait pas été soulevé et qu'on oublie ça. Notamment, voilà, donc on parlait du harcèlement de rue, donc c'est-à-dire c'est quand même des hommes qui se permettent de faire des réflexions aux femmes sur la manière dont elles sont habillées, sur la manière dont elles se comportent, de venir briser leur sphère privée à laquelle on a le droit même dans un espace public. Donc voilà, enfin, je souhaitais juste soulever ce problème parce que ça m'agaçait un petit peu qu'on n'en parle pas.
Non, mais excusez-moi, j'en avais parlé, j'ai parlé de stop harcèlement, j'ai parlé de rapport au conseil. Donc oui, j'en ai parlé. Et alors effectivement, quand ce monsieur m'a posé la question, après je me suis dit mais zut, j'aurais quand même dû lui répondre à propos des femmes. Donc c'est pas vrai, les rapports sont pas aussi naturellement tranquilles quoi. Et bon, après on pourrait discuter sur votre position. Je suis pas sûre que les espaces publics denses parisiens sont dominés par les hommes, je crois pas.
Jérôme,
en tout cas pas dans la journée, la nuit peut-être.
Donc, c'est là
que
commence le problème.
Malheureusement, ben moi je suis pas du tout d'accord avec toi, Michel. Je suis mais 100%, même 1000% d'accord avec vous, madame. C'est quelque chose que moi je vois, c'est quelque chose dont on est tous témoins en permanence, et c'est d'une importance capitale. Voilà, je pense que l'expérience de la rue n'est pas du tout la même pour tout le monde, même au sein de... Enfin, il ne s'agit pas de parler du reste du monde, évidemment. Si on reste ici, si on parle des villes ici, la façon dont c'est appréhendé n'est pas du tout la même. Il y a juste une toute petite histoire qui peut simplement donner une petite réflexion là-dessus. J'ai une amie, par exemple, qui me disait l'autre jour, je ne sais même pas si c'est elle qui a eu cette pensée ou cette réflexion, ou si ça venait d'ailleurs, mais elle me disait j'adore la nuit et j'adore regarder les étoiles et j'adore me balader la nuit, et il n'y a rien de plus magnifique que ça, que de passer du temps dehors et de regarder les étoiles et de se mettre à rêver. Et elle a conclu en disant dommage, j'ai absolument jamais l'occasion de le faire, simplement parce que j'ai peur. Et d'un seul coup, c'est comme une sorte de petit réveil, c'est-à-dire des choses que les hommes... c'est des questions qu'on ne se pose même pas, en réalité, la plupart du temps. Et ça fait du bien, de temps en temps, d'être un petit peu remis en cause. Voilà.
Bon, j'aurais juste quand même répondre à cette jeune femme. Moi, je pense qu'on a tous été alertés par le rapport qui a été publié il n'y a pas très longtemps, en mars, avril, je crois... Et du coup, je ne connaissais pas, moi, l'association Stop Harcèlement. Et justement, par rapport à cette intervention, où c'était avril, parce que je ne savais pas encore que je venais, je crois, j'ai été discuter avec les femmes qui s'occupent de Stop Harcèlement. Donc, effectivement, mais ce qu'elles me disaient m'était pas complètement étranger. Oui, je peux dire, moi, personnellement, il y a des moments dans la nuit, je ne vais pas dehors. Oui, ça, c'est sûr. Donc, je n'ai pas un accès illimité comme un homme dans la rue de Paris. Mais je crois qu'aussi, j'avais l'impression, en discutant avec elle, qu'il y avait un problème de génération. Voilà, mais on pourrait en discuter beaucoup, beaucoup plus longuement. Je ne me reconnaissais pas tellement dans ce qu'elle me disait.
Oui, bien sûr, c'est dans les journées. Mais
d'accord, mais bon...
C'est une chose très très simple, hein, c'est que j'ai pas une seule de mes copines, de mes amies, qui n'ait pas été agressée d'une façon ou d'une autre. Pas une. Et
pardon.
Bon. On va arrêter. Bon, on va arrêter là-dessus, je crois. Ouais. Il y a juste.
Je voulais juste.
Alors, il y a une personne qui a le micro là-bas. Je crois que c'est la troisième personne.
Je peux être patiente et après on arrête. Même passer la parole à quelqu'un. C'est difficile d'intervenir après la poésie de monsieur là sur le plaisir de regarder ses toiles. Moi, je suis une femme. J'ai été agressée dans le métro, mais ça m'empêche pas d'aller regarder le clair de lune. Là, franchement.
Et, on le voit pas à Paris. Hein, le
ça
clair
m'est
de
déjà
lune
arrivé
est,
de me retrouver jeune fille devant un homme. Bon, je lui ai dit, c'est pas grave, ça te soigne.
On a dit qu'on
arrêtait. Voilà, je lui ai dit ça. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport au métro. Autrefois, dans les métros, il y avait des grands bancs où les gens pouvaient éventuellement s'allonger. C'était pas une solution forcément la meilleure pour eux, mais c'était mieux qu'aujourd'hui les voir dehors. Et je trouve triste les villes où on ne met des bancs que pour une personne à condition qu'elle ne reste pas assise, qui retirait les dossiers pour qu'elle puisse partir assez vite, ne plus penser au consort. Moi, je pense à la marginalité. Je pense qu'en tant qu'éducatrice, je suis allée dans des quartiers où les gens avaient peur. Et moi, j'ai rencontré des gens, des jeunes et des garçons qui font des choses extraordinaires dans les squats. Et ça, c'est la marginalité. La marginalité est aussi très, très porteuse de projets. Et j'ai trouvé des gens qui disaient, mais nous, on ne revendique pas de travailler toute notre vie, 40 heures par semaine. La moitié du temps, ça nous suffit parce qu'on fait de la musique, parce qu'on y a des potagers, parce qu'on fait tas de choses. Et moi, je pense que regarder l'autre, moi, je trouve triste ces villes où on dit, il ne faut plus du tout de clochards dans les coins. Mais bien sûr, si on fait en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté et d'injustice sociale, d'accord, les centres d'hébergement éviteront que les gens se couchent sur des bancs publics, mais je regrette les bancs publics, justement, parce que les gens pouvaient se rencontrer et se parler, et je pense que la marginalité doit avoir son... La marginalité, c'est pas forcément des gens qui ont tout perdu, c'est des gens aussi qui choisissent à un moment donné de réfléchir pour être autre chose et autrement.
Je voulais vous dire que c'était une belle conclusion, parce que sur ce sujet, espace public-privé, de terminer sur cette image de bancs qui ont été scindés pour que les gens n'y dorment pas. Et je vous propose de nous arrêter là ce soir.